Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h37, bulle ou pas bulle? On va en parler avec Marc Fiorentino, Maël Le Chypre. L'heure est grave. Est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent sur les marchés
financiers? Non, mais je voudrais donner un petit cours à Emmanuel Le Chypre. Parce que Emmanuel Le Chypre est très bon en économie, très très mauvais en argent et en marché. Je vais lui expliquer un petit truc. On peut avoir une bulle, mais la bulle peut mettre du temps à éclater. C'est-à-dire qu'une bulle, par principe, on l'identifie. Donc là, ça y est.
Et votre métier, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va éclater.
Notre métier,
de sortir du marché juste avant.
Essayer de sortir avant.
Bon, on sort quand, Marc?
On sait aujourd'hui qu'on est dans une bulle. Pourquoi on est dans une bulle? Parce qu'on est dans l'everything rally, que disent les Américains. C'est-à-dire,
tout monte
en même temps.
Les actions,
l'or, le bitcoin ce matin, le pétrole. Enfin bon, on voit que ça y est, les marchés d'hier première, le cacao. Enfin, et tout ça sur des volume complètement spéculatif. Donc ça veut dire déjà, un, on identifie qu'il y a une bulle. Contrairement à ce que dit Emmanuel, c'est pas parce qu'on identifie qu'il y a une bulle qu'il faut être inquiet. Il faut être vigilant, c'est différent. Vigilant et inquiet, c'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, il faut se dire qu'une bulle, elle peut éclater dans 3-4 ans, elle peut éclater dans 6 mois. Pour l'instant, on n'a aucune indication d'éléments qui pourraient la faire éclater. Aucune indication.
Donc, il faut continuer à rentrer sur le marché?
Donc, il faut rester sur le marché. Est-ce qu'il faut rentrer sur le marché? Ma réponse est non.
Ah.
Voilà. Est-ce qu'il faut rentrer sur le marché?
Vous prenez le risque de risquer 3 ou 4 ans de rallye.
Oui, ça c'est pas grave.
Okay.
Mais est-ce qu'il faut se retirer du marché? Ma réponse est non. C'est-à-dire vigilance, patience. Bon, ben ça, je le dis pour Emmanuel, c'est juste pour lui apprendre quelques trucs.
Vous avez compris du coup, Emmanuel?
C'est-à-dire que l'arrogance des gens de marché est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que Marc prétend avoir identifié que ça y est, on avait une bulle, ce que personne n'est jamais capable de faire, et c'est bien pour ça que ça se termine toujours très mal. C'est-à-dire que vous n'avez aucun travail qui vous permet d'identifier, parce que moi je suis modeste.
L'everything rally,
je regarde ce que disent les gens qui réfléchissent. Et les gens qui réfléchissent, il n'y en a aucun qui vous dit, banquier central, etc.
Exemple.
C'est quoi le bon niveau des marchés? Donc, c'est quoi le début?
Je reprends toujours le même exemple. Décembre 96, Alan Greenspan dit exubérance irrationnelle. Il dit, ça y est, on est dans une bulle. Mais la bulle, elle éclate 4 ans après. C'est très simple d'identifier une bulle.
Le même type qui disait qu'il n'était absolument pas capable, lui, de dire s'il y avait une bulle et qu'il n'y avait qu'une seule vérité, c'était l'information transmise par tous les gens qui font le marché. Donc, on ne peut pas lui faire dire ça. Donc, non, la réalité, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un marché.
Il ne faut pas demander à des économistes qui pensent le marché.
Il y a un marché qui monte rapidement, ce n'est pas pour ça qu'il y a une bulle.
Bon, attendez, voilà, en même temps, il y a des éléments quand même sous-jacents, structurels, importants.
Donc, il n'y a pas de bulle encore.
Si l'IA est la révolution qu'on nous décrit, ça peut changer complètement, effectivement,
oui,
la rentabilité de l'entreprise,
En bien et mal. C'est-à-dire, d'abord, on est en plein là-dedans. Vous avez raison, Christophe. C'est probablement le moteur le plus fort actuel de l'anticipation. Sauf que, bon, c'est une révolution, mais c'est une révolution qui va faire des morts.
Ah oui,
c'est-à-dire qu'il va y avoir des entreprises qui vont... Et c'est une révolution qui justifie, contrairement à là, par contre, ce que tout le monde dit, en disant, mais c'est absurde, tout l'argent va sur les mêmes valeurs, ça n'a pas de sens... les sept magnifiques, si, ça a un sens. C'est qu'avec l'IA, en fait, winner takes all. C'est-à-dire que les gagnants, il va y avoir quelques gagnants. Le reste, ça va être comme Google. Quand vous êtes sur Google, il n'y a que Google qui gagne de l'argent.
Ouais.
Toutes les entreprises qui achètent des mots-clés, ils ne gagnent pas d'argent. Donc Google fait travailler des milliers d'entreprises à son compte pour gagner de l'argent.
Un petit mot quand même, parce que c'est quand même lié sur les écarts de taux en Europe, sur les têtes d'État, avec la dette italienne qui se paye bien du coup.
Hein. Ah non, mais c'est spectaculaire. Hein, non. Alors ça, c'est compliqué à comprendre Emmanuel, ça y comprend. Pour des gens qui ne suivent pas le marché, c'est qu'on a l'écart de taux entre l'Italie
et l'Allemagne,
donc la prime de risque qu'on est prêt à payer pour prêter à l'État italien par rapport à l'État allemand, qui est au plus bas depuis 2 ans. Je rappelle que c'est un écart de taux qui était quasiment à 4% quand on était dans la crise de 2011, qui est à 1,16% à l'heure où on parle, ce qui est absolument spectaculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a plusieurs choses. Un, ça veut dire que les investisseurs font confiance au gouvernement Meloni, alors qu'on s'était tous plantés en septembre 22 en disant ça va être la catastrophe. Deux, ça veut dire qu'aujourd'hui, et là je reviens à la France, parce que c'est pas ce qui est en train de se passer sur la France. Sur la France, l'écart de taux est en train d'augmenter. Ouais. Ouais. Sur l'Italie, il est en train de baisser. Je rappelle que le taux français est à 2,85 à 10 ans, le taux espagnol à 3,10, le taux italien à 3,60. Ça veut dire quand même que moi, ce que j'espère, mais je l'espère, je le souhaite, c'est que les taux italiens et espagnols soient inférieurs au taux français pour qu'on prenne enfin conscience qu'on est en train de faire n'importe quoi avec nos dépenses publiques.
Emmanuel.
Non, mais il faut arrêter. C'est-à-dire, ça ne veut strictement rien dire. Et depuis que l'euro existe, ça ne veut strictement rien dire. Pendant 10 ans avant la crise grecque, les Grecs, ils empruntaient au même taux que les Italiens, que les Allemands et que les Français. Donc, je veux dire, cette soupe qu'on nous sert en disant, les taux d'intérêt sur les marchés, sur les taux longs, sur les marchés, sur les dettes publiques, c'est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus des États pour les inciter à être raisonnables. Ça n'a strictement jamais marché. Donc, et d'ailleurs, c'est une des principales raisons.
Ça n'a tellement pas marché que ça a failli faire éclater la zone euro en 2011.
Non, mais on était sur un problème particulier qui était le problème de la Grèce qui a fait énormément
pas seulement
d'efforts. Effectivement.
4% de différentiel de taux d'intérêt entre l'Italie et l'Allemagne en 2011.
C'était beaucoup le cas de la Grèce. C'était pas le cas de l'Italie.
On a un problème en France. Quand on se compare à l'Italie, par exemple, notre déficit, la dette italienne, elle est forte, mais notre déficit, il est plus grave que
l'Italie. Oui, mais
il
faut raisonner en tendance.
Et la tendance, elle est plus inquiétante aujourd'hui pour l'Italie que pour la France, contrairement à ce qu'on pourrait croire.
C'est pas sûr. C'est pas ce que disent les investisseurs, ce que disent les économistes.
Mais pour une raison très simple, c'est que l'Italie n'a pas de potentiel de croissance. Donc, l'Italie a beau mieux
c'est
gérer.
Vrai nous, c'est vrai que nous, on a un potentiel de croissance phénoménal,
qui est plus élevé que l'Italie.
Ils ont 20% d'industrie dans leur pays, on en a 10.
1,5% probablement en Espagne cette année.
Le sujet, c'est que vous avez un pays qui, certes, effectivement, gère mieux ses finances publiques que la France, puisque puisque c'est un pays qui a notamment un solde primaire, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé la charge de la dette qui est positif. Sauf que si vous voulez que votre dette diminue, vous devez faire de la croissance. C'est le seul pays quasiment de l'OCDE qui a un taux de croissance potentiel négatif. C'est un pays qui n'a pas de potentiel de croissance
en
compte tenu de sa productivité et de sa démographie.
En tout cas, aujourd'hui, les investisseurs misent sur l'Italie, ils misent sur l'Italie et ils misent pas sur la France.
Bon, un petit mot quand même de la croissance française avant de parler de l'économie de guerre, notamment en Russie. La croissance française, on a eu le nouveau chef du département d'analyse économique de l'INSEE qui nous a expliqué pourquoi on patinait et pourquoi le premier trimestre serait nul. On l'écoute.
Ce qui se passe, c'est que côté demande, on a une reprise de la consommation parce qu'on a moins d'inflation, un peu de pouvoir d'achat pour les ménages, ils se remettent à consommer. Mais au premier trimestre, on a encore une activité qui est entravée par notamment des problèmes dans l'industrie. En janvier, on a eu les données de production industrielle et dans ces données, on voit une forte baisse. Quand on décortique un peu cette baisse, on voit qu'elle est particulièrement forte effectivement dans les raffineries où là, on a des arrêts pour des problèmes techniques qui vont plus se poursuivre en février, en mars. C'est ce que nous disent les industriels quand ils répondent à nos enquêtes. Et puis dans l'automobile, on a eu des problèmes d'approvisionnement qui ont provoqué une forte chute de la production. Dans ces deux secteurs, ce serait en partie temporaire, et donc c'est pour ça qu'au deuxième trimestre, l'activité bénéficierait à plein du redémarrage de la consommation et on a une prévision de croissance de 0,3%.
Voilà, Dorian Rouchet, le chef du département conjoncture de l'INSEE.
Quand il dit à plein, on sera à 0,3%, j'ai juste envie de me tirer une balle dans la tête, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est genre, on va démarrer, ça va redémarrer du feu de Dieu. Non, je ne suis pas d'accord avec ces explications. Je pense que l'explication réelle, c'est qu'à partir du moment, on a un modèle économique qui fait que sans injection de fonds publics, on ne crée pas de croissance. On est capable de créer de la croissance qu'à crédit. Donc à partir du moment où là, compte tenu de notre déficit qui est aberrant, les Allemands, la zone euro nous dit quand même faudrait faire attention. Alors ils devraient nous sanctionner, ils nous sanctionnent pas, ils nous laissent faire n'importe quoi, mais ils nous disent bon, passez pas de 5 à 7 quand même. Ouais. Donc à partir du moment où on a plus d'argent à injecter dans cette économie, une économie qui est basée sur l'assistance, sur l'aide, sur les boucliers, sur les plans de relance, sur les plans de résilience, à partir du moment où vous injectez plus d'argent, à partir du moment où vous faites plus de croissance, vous faites plus de crédit, il y a pas de croissance.
C'est quand même inquiétant ce que dit Marc. Il nous dit qu'en fait, on les années un peu meilleures qu'on a eues au cours des dernières années, c'était dû au déficit public. On n'a pas de ressort interne de la croissance.
Ce qui est compliqué, c'est que, alors pour le coup, les comparaisons entre pays, elles sont compliquées aujourd'hui parce que les degrés d'intervention publique sont pas les mêmes. C'est vrai que tout le monde se gargarise de la performance américaine. C'est vrai qu'elle est quand même en partie gonflée
par les déficits.
Ouais, mais je dis pas le contraire, c'est évident.
Mais voilà. Donc après, effectivement, oui, on est dans un modèle de croissance qui est extrêmement dépendant de la dépense publique. Et le pire, c'est qu'on retrouve un modèle de croissance qui redevient le pire qu'on ait eu, puisqu'il y a quand même quelques années où vous aviez une consommation qui progressait plus raisonnablement et où vous aviez un effort d'investissement. Ouais. Et là, on retrouve un modèle de croissance dans lequel on consomme beaucoup et on investit peu. Et ça, c'est vraiment, vraiment retour en arrière.
Alors justement, on va écouter à nouveau Dorian Rouchet pour l'INSEE, et que ça va faire plaisir à Marc, parce qu'il explique que si on est en panne, c'est à cause de Christine Lagarde. Écoutez-le.
Quand on interroge les entreprises, hein, nous on interroge 15 000 entreprises chaque mois à l'INSEE dans nos enquêtes de conjoncture, elles sont très prudentes sur leurs prévisions d'investissement. Et quand on détaille un peu les facteurs, elles nous disent que les conditions de financement sont très peu propices à l'investissement. Donc elles notent que ce qui les freine, c'est leur situation de financement, leur capacité à se financer, donc c'est les conditions d'emprunt.
C'est Christine Lagarde.
C'est les conditions d'emprunt au sens large, et elles nous disent, c'est le solde d'opinion sur les conditions de financement, il est le plus bas depuis 20 ans dans les enquêtes de conjoncture, donc ça fait 20 ans que les entreprises n'ont pas connu un environnement de financement aussi défavorable à l'investissement.
Bon bah là Marc, vous applaudissez.
Ah oui, j'applaudis, de toute façon tout est logique, hein. À partir du moment où on ne peut fonctionner, notre croissance on ne peut la créer qu'à crédit, et que le taux de crédit est trop élevé, on n'y arrive plus.
Et donc, parce que l'État ponctionne l'épargne des ménages aussi.
On va pas se lancer dans le débat. Hein. L'État alimente l'épargne des ménages. C'est très différent. Ouais. Hein. C'est-à-dire qu'on a donné trop d'argent. Ouais. On a donné trop d'argent à des gens qui n'en avaient pas besoin. Donc c'est notamment le bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, c'est le bon exemple. Tout ce qu'on a fait sur l'essence, c'était totalement absurde, puisqu'on a filé de l'argent à des gens qui n'en avaient pas besoin. Mais ce qui est intéressant, juste, je finis là-dessus, c'est moi ce qui m'énerve encore plus dans la BCE, c'est pas simplement qu'elle maintient ses taux élevés, c'est qu'elle dit que le problème de la banque de la zone euro, c'est la hausse des salaires. C'est-à-dire que c'est quand même un truc qui me choque, quoi.
Alors à l'instant, le chiffre justement des prix définitifs à la consommation a été publié par l'INSEE, donc on est à 3,2% d'inflation harmonisée en février. 0,1 de plus de première provision. Non, c'est
là,
pas mal, quoi.
La tendance, elle est très clairement en recul.
Oui, d'ailleurs, c'est bien.
L'INSEE le dit. Non, mais ce qui est fascinant, c'est que, en fait, vous n'auriez rien fait sur les taux d'intérêt.
C'est sûr.
Je suis sûr que le profil d'inflation aurait été extrêmement
différent. Ah non, mais je suis d'accord. Non, mais je suis sûr qu'on aurait eu le même profil d'inflation.
De ce qu'il a été. Et donc là, on voit bien, effectivement.
Pour une fois, c'est un truc intelligent.
La difficulté de l'exercice. Et donc, il est effectivement important que ces taux baissent. Alors, ce qu'on entend, ce qui est encore plus absurde, alors,
j'ai dit 3,2 contre 2,9 à la dernière prévision. Donc, ça baisse, mais ça résiste un peu.
Oui, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez des travaux, et d'ailleurs, il y a des messages qui commencent à être envoyés par les banquiers centraux sur l'idée qu'on va peut-être réviser à la hausse les cibles d'inflation des banques centrales. Donc là, on est en train de s'acharner sur un 2%, alors qu'en fait...
Qui n'a aucune base académique.
Académique.
Je parle sous ton contrôle, mais
ça fait plaisir de vous voir d'accord.
Qui n'a pas de base académique. Et c'est vrai que... Alors là où je suis pas d'accord avec un truc qu'a dit Marc tout à l'heure, c'est que contrairement à ce qu'il dit, c'est pas parce qu'on a une hausse des taux d'intérêt qu'il y a moins de liquidités sur les marchés venus des banques centrales. C'est aussi pour ça que tout monte. Hein, d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même des taux... Et c'est là où c'est dingue.
Il y a des retraits de liquidité des banques
centrales. On ne pénalise pas les marchés et par contre, on pénalise l'investissement. Et sur l'épargne, il y a deux phénomènes. Il y a effectivement le fait qu'on a distribué de l'argent à des gens qui n'en avaient pas besoin et qui l'accumulent. Et puis, vous avez quand même moi, ce qui me frappe, c'est l'opinion des Français sur leur retraite. Oui, mais
pourquoi ?
Et donc la réalité, c'est que vous avez aussi des Français qui accumulent de l'épargne parce qu'ils ont peur d'un avenir, alors que, rappelons-le, ce sont les Français qui, dans leur vie au quotidien...
Quand ils vous écoutent, ils ont raison d'avoir peur de l'avenir.
Prennent le moins de risques de tous les pays européens.
Allez, dernier sujet, on va quand même parler de la Russie, puisqu'il y a un scrutin présidentiel sans enjeu, hein, sans surprise, mais quand même, ce qui est intéressant avec la Russie, c'est de voir comment une économie devient une économie de guerre. On voit ça avec vous, Raphaël Couder.
Oui, l'industrie militaire russe tourne à plein régime actuellement. Les dépenses dans ce domaine doivent augmenter de 68% cette année pour atteindre 106 milliards d'euros. C'est environ 6% du PIB russe. Et c'est ce qui a porté justement l'économie russe l'année dernière. La Russie qui a atteint 3,6% de croissance selon l'agence Rostat, l'agence de statistiques publiques russe. Cette croissance, elle devrait se poursuivre en 2024. Là, c'est le FMI qui le dit et qui s'attend à 2,6%. 1,6% de croissance. La Russie, elle résiste aussi parce qu'elle a réussi à contourner les sanctions occidentales. Le pays a trouvé de nouveaux partenaires en Asie, comme la Chine et l'Inde, qui achètent beaucoup de pétrole russe. Alors, tout n'est pas parfait. Les sanctions produisent tout de même des effets. Le premier effet visible, c'est l'inflation, entre 7 et 8% ces derniers mois. Deuxième bémol, la Russie reste très dépendante de ses hydrocarbures. Et là, dans ce domaine, eh bien, le marché européen s'est évidemment complètement fermé. Les prix du gaz sont rentrés dans le rang et le pétrole est vendu moins cher que les cours mondiaux à cause justement des sanctions occidentales. Résultat, les recettes baissent dans ce domaine, moins 10% en janvier 2024 contre décembre 2023.
Marc, est-ce que la guerre peut être justement un facteur de relance d'une économie ?
Non, de relance, non. C'est un facteur de croissance, c'est très bien expliqué. C'est-à-dire, pendant la guerre, ben vous avez une croissance liée aux dépenses militaires et liée aussi, comme il a été dit, à la hausse des prix d'hydrocarbures quand même depuis 2 ans. Mais derrière cet écran de fumée temporaire, l'économie russe est un désastre absolu. Mmh. L'économie russe était déjà un désastre absolu puisqu'elle ne dépendait que du pétrole et du gaz. Ils n'ont jamais rien construit. D'accord. Et maintenant, ils dépendent des dépenses militaires. On peut espérer qu'un jour, ces dépenses militaires refluent, parce que de toute façon, ils n'auront pas les moyens de financer leur développement militaire ad vitam aeternam, surtout si le prix de l'hydrocarbure baisse. Et donc, derrière, ce que je veux juste dire, c'est que derrière cet écran de fumée de croissance apparente liée à la guerre, il y a une économie russe qui est en lambeaux.
Mmh. On va pouvoir suivre, nous, le rythme si on doit effectivement se réarmer et se préparer au pire.
C'est ça qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que toutes les faiblesses de l'économie russe que Marc a soulignées et qui sont justes, on a toujours trouvé le moyen, nous, en Europe, avec nos décisions, de les aider à se renforcer. Ouais. C'est-à-dire que en gros, quand on décide l'embargo sur, finalement, les produits céréaliers, etc., bah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ça les a incités à massivement se relancer dans les céréales et se sont devenus des champions des céréales qui exportent partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même nous qui leur avons tendu la perche. Et là, dans un pays qui, effectivement, plus les années Poutine se sont avancées, plus l'économie russe s'est resserrée sur un nombre de secteurs et n'a jamais réussi à développer une industrie compétitive sur rien, on trouve le moyen de leur faire relancer une industrie qui n'a pas besoin d'être compétitive et qui répond à un besoin très spécifique, qui est l'industrie de l'armement. Donc oui, temporairement, mais temporairement, leur puissance de frappe risque d'augmenter davantage que la nôtre au rythme où on a l'air de vouloir le faire en Europe.
Merci à tous les deux. On vous retrouve.